Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Très très bon. Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans prétention.
Bon vendredi midi à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire qui s'amorce en ce vendredi 30 août en pleine rentrée universitaire. Donc nous également, c'est lentement mais sûrement la award season qui va s'installer dans nos cinémas locaux. Ces films là, donc qui aspirent aux grands honneurs l'année prochaine aux Oscars et à d'autres prix là aussi. En ce moment en fait, la Mostra de Venise s'est amorcée avec notamment la projection de Beetlejuice, hein, qui va sortir en fait ici la semaine prochaine. Mais déjà, on reçoit des échos de la Mostra, des échos somme toute assez positifs. On a également aussi là, à ce festival-là eu la chance de voir Maria, donc le nouveau film de Pablo Larraín qui m'en avait d'être Angelina Jolie. Et également le nouveau long métrage, mais présenté hors compétition, d'Alfonso Cuarón, hein, qui m'en veut d'être Kate Blanchett. Ça fait longtemps, Cuarón, qu'il n'a pas fait de film. C'était depuis Roma, donc en 2018. Donc on était dû pour un nouveau film de lui. Et aujourd'hui, je vais commencer avec le plan de l'émission avant d'entrer dans le cœur peut-être des nouvelles cinématographiques. Aujourd'hui à l'émission, on va vous parler du film N'avoue jamais, donc un nouveau long métrage français qui prend l'affiche ici à la Maison du cinéma. En fait, il y a deux nouveautés là, qui sortent en ce vendredi, donc ce film-là, et ainsi que Afraid ou Terrifiante en français, le nouveau long métrage de Chris Weitz qu'on connaît bien pour notamment le premier American Pie qu'il avait co-réalisé avec son frère, pour des films, en fait, une carrière un peu... Hein, pas nécessairement en dents de scie, mais il avait réalisé About a Boy, qui avait quand même connu un bon succès. Il avait réalisé, après ça, un des Twilight, je crois. Donc, c'est une drôle de carrière, un peu, que ce réalisateur-là. Mais, bref, il nous présente son nouveau film, que je n'ai pas eu la chance de voir, mais qui fait quand même sa sortie ici à la Maison du cinéma. Je vais vous parler un peu plus tard, là, très prochainement, en fait, là, de justement N'avoue jamais. Tout ça pour continuer dans le planning de l'émission, on va recevoir en fait deux chroniqueurs. D'abord, Maxence Gagné qui vient nous parler de la série Terrifier. D'ailleurs, c'est une série d'horreur autoproduite qui a pour l'instant deux volets, mais également quelques courts-métrages. Eh bien, la bande-annonce en fait du troisième volet a été dévoilé en fait cette semaine. Donc on est un peu d'actualité, le troisième volet qui est prévu là, pour la mi-octobre si je ne m'abuse. Donc on entendra Maxence nous présenter un peu cette franchise-là, ainsi que Laurent Bergeron qui nous fait sa critique ou qui nous apporte un peu ses réflexions sur le film Sans soleil de Chris Marker. Donc on a eu une discussion quand même assez intéressante sur ce document. Fiction très philosophique, donc vous pourrez entendre ça aujourd'hui à l'émission, et ainsi que ma critique du film, comme je vous l'ai dit, N'avoue jamais. Commençons peut-être avec quelques nouvelles brèves. Je commencerai avec la grande visite là, qui s'amène à Montréal à la fin septembre. Spike Lee qui fait son retour au Festival du film Black de Montréal et qui sera le président d'honneur de la 20e édition de ce festival. C'est déjà sa quatrième participation là, à ce festival-là, donc il est quand même un habitué de la place, mais c'est quand même une très belle prise du festival, et d'ailleurs il fera une entrevue devant public là, un peu, par la fondatrice, en fait, menée par la fondatrice du festival. Sinon, Il y a Une langue universelle, le nouveau long-métrage de Matthew Rankin, qui va être la soumission en fait, du Canada aux prochains Oscars. Donc, j'ai bien hâte de voir s'il aura une chance quand il va sortir en salle. En fait, là, je crois que sa sortie est prévue pour début octobre. Je ne sais pas si j'ai la date devant moi. Mais bref, le film a été présenté, non pas à Cannes, mais pendant la quinzaine des réalisateurs. Il a été très bien reçu par la critique également. Donc, voilà. Sinon, il y a Phil Roy qui va succéder à HD du Temple à l'animation du 26e Gala Québec Cinéma là, qui va être diffusé en fait en décembre prochain. Et on rappelle ce gala-là qui bat de l'aile un peu depuis quelques années. Il y a eu les deux dernières années, disons, un peu plus troubles. Donc, voilà, espérons que Phil Roy sera à la hauteur. J. Dutemps qui a quand même fait une job correcte, je crois, à l'animation du dernier gala. Donc, voilà, j'ai bien hâte de voir quel film sera consacré. Et puis, voilà, il est un peu tôt quand même dans la Mostra pour avoir tous les échos, mais je suis certain qu'il y a plusieurs films qui vont beaucoup faire jaser, notamment aussi Joker Folie à deux. Qui avait gagné hein, le premier volet, on se rappelle, le Lion d'or à Venise. Parlons peut-être donc de la nouveauté de la semaine que j'ai vue, donc N'avoue jamais, qui est le nouveau long-métrage du réalisateur Ivan Kalberak, et qui met en vedette André Dussolier, Sabine Azéma et Thierry Lhermitte. Dussolier et Azéma là, qui se retrouvent pour une énième fois au grand écran, en tant que couple également, là, c'était le couple évidemment dans Tanguy, mais aussi dans plusieurs autres films. Un film qui s'intéresse un peu à, comment dire, au secret peut-être qu'on ne dit pas, même aux personnes les plus proches de nous. En fait, ça suit l'histoire, là, ce film-là, de François qui est un général à la retraite et qui se rend compte là, que sa femme, Annie, a commis l'adultère il y a 40 ans et puis il décide de se venger de la personne avec qui elle a couché, donc qui est Thierry Lhermitte, qui était un ami du couple là, dans les années 80. Et puis voilà, on se retrouve un peu dans un film assez particulier, là, je l'avoue, parce que, bon, sur papier, ça semble être quand même assez générique comme histoire, puis j'avoue que sur certains points, ce l'est quand même, les situations font pas beaucoup de sens, ou plutôt sont un peu guidées par la recherche du gag, là. C'est pas très très crédible, là, je trouve, l'ensemble des situations, ou même peut-être ce qui en découle, parce que, bon, la situation de la prémisse de base là, qui est bon, ma femme a commis l'adultère, je vais aller péter la gueule à l'homme avec qui elle a couché. Ça va jusque-là, entre gros guillemets. Là. Ce qui est peut-être un peu moins crédible, c'est que sa femme va l'accompagner un peu dans ce périple-là, à la fois pour retrouver cet ancien homme-là, puis peut-être essayer de raviver la flamme avec son mari. C'est assez particulier un peu, puis j'avoue que les critiques ne sont pas nécessairement très très chaudes envers le film. Cela dit, j'ai quand même été surpris d'aimer ça plus que je le croyais. Probablement, puis là je lisais l'avis de Mediafilm à ce niveau, sur ce film-là, là, que Mediafilm qui a donné 5, donc moyen, un qualificatif de moyen à ce film-là, qui disait que c'était un humour un peu vieux jeu, un peu rétro, qui rappelle beaucoup les années 80, les comédies françaises des années 80. Moi, évidemment, j'étais un grand fan des comédies françaises, bon, surtout 70, là, mais aussi 80. Tout ce qui est Louis de Funès, Pierre Richard et tout. C'est un humour qui me parle beaucoup de vieux monsieur frustré. Et puis, honnêtement, j'aurais vu de Funès jouer un de ces rôles-là, parce que Dussolier joue justement cette espèce de vieux général bourru qui n'en fait qu'à sa tête et puis qui agit comme tout homme blanc de 70 ans et plus, avec beaucoup de colère et de masculinité, pas nécessairement toxique, mais disons de masculinité, macho, bref. Mais Il y a quelque chose dans le timing comique de Dusselier, d'Azéma et de l'Ermite qui m'a beaucoup plu, je l'avoue. Ça paraît que c'est des acteurs et actrices vraiment d'expérience, puis qui rehaussent vraiment la qualité du film, j'ai trouvé, parce que, comme j'ai dit, les situations font à peu près aucun sens. Le film devient même touchant à un certain moment vers la fin, ce qui n'est pas nécessairement surprenant pour ce genre de film-là, mais qui, quand même, m'a plus touché que je l'aurais cru. Bon, ça reste quand même très de surface comme situation, puis on imagine un peu avec cette prémisse-là, un peu comment ça va se terminer. Mais c'est ça, j'ai quand même été relativement surpris. Je sais pas si c'est parce que j'ai consommé beaucoup de comédies françaises des années 70-80 et que c'est ça, l'humour me parlait peut-être un peu plus. Je crois que pour un public un peu plus âgé, ça va être un film quand même agréable à voir. C'est ça, c'est vraiment André Dussolier, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais c'est ça, il y avait vraiment quelque chose dans son timing comique qui m'a beaucoup parlé, et c'est ça, ça reste somme toute assez sympathique si on part pas avec des trop grosses attentes non plus envers ce film-là, donc je vous le conseille quand même, honnêtement, il faut toujours faire sa propre opinion, mais moi j'ai particulièrement aimé, et puis voilà, quoi, n'avoue jamais, donc ça prend l'affiche à la Maison du cinéma dès aujourd'hui. On se laisse en pause publicitaire et au retour, c'est Maxence Gagné donc, qui nous parle de la série Terrifier. Restez des nôtres.
Un jour je vais faire un film, je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant je reçois mon chroniqueur Maxence Gagné. Salut Maxence, ça va bien?
Oui, toi?
Oui, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, là, tu voulais nous parler d'une franchise de films d'horreur, en fait, Terrifier. C'est quoi ça, Terrifier?
Ben oui, pour commencer, je pense qu'il faut donner un avant-goût public de ce que c'est, parce que ça a très vite pris du gaz, cette série-là. Mais c'est encore quelque chose qui reste loin, peut-être, du mainstream de l'horreur. Donc, à la base, c'est un Terrifier, c'est basé sur un personnage qui s'appelle Art the Clown. Ça a été créé pour un court-métrage en 2008 par Damien Leon, un technicien d'effets spéciaux. Mais ensuite de ça, c'est son personnage dans le court-métrage. Puis, il n'était pas le focus de ce court-métrage-là, qui s'appelle Le 9e Cercle. Mais ça... c'est le personnage qui intéressait le plus les spectateurs. De fil en aiguille, à travers les derniers 10 ans, je dirais, parce que le premier long métrage, c'est 2016, il a élaboré le personnage jusqu'où c'est rendu aujourd'hui. Il y a un troisième long métrage qui s'en vient. Le personnage, bon, comme je dis, il n'est pas encore connu de tous, mais il y a des Funko Pop à son image qui sont... On les verrait peut-être pas à l'imaginaire, celle-là, mais on peut les acheter en ligne. Donc, il y a quand même un peu... il y a tout un fan club qui s'est créé. Là. On peut acheter des costumes d'Halloween.
Parce que c'est ça, tu disais que sur le court-métrage d'origine, c'était pas le focus, c'était un personnage présent. Mais
c'était un personnage, il apparaît une minute, puis après ça... ça se déroule plus avec le diable, des démons, mais c'est très brouillon. Là. Si les auditeurs voulaient le voir, là, c'est en espagnol, sur YouTube. C'est toute la colorimétrie est rouge. Et mettons que la résolution, c'est 12 pixels, je sais pas comment le dire.
Ouais. mais on comprend peut-être pourquoi il est devenu quand même populaire, parce qu'il est très... tu sais, je trouve qu'il est très bien fait, je sais pas dans le court-métrage, là, mais moi j'ai seulement vu les longs-métrages. Mais tu sais, il fait quand même peur, là. Il est creepy, puis plus que la plupart, j'ai l'impression, là, des vilains du cinéma d'horreur en général. Bon, c'est sûr qu'il y a Hellraiser aussi qui fait peur un peu, mais tu sais, Michael Myers dans les Halloween, bon, ça fait pas très très peur comme personnage. Même à la limite, It dans les... Pennywise dans It, tu sais...
c'est plus quasiment cartoonish, mais Art, il fait vraiment peur, puis on comprend pourquoi on a voulu baser une franchise de films sur ce personnage-là.
Parce que moi, j'ai l'impression aussi, souvent avec les films d'horreur de slasher, les Freddy, les Jason, les Halloween, c'est quand même destiné à un public,
grand public, entre guillemets.
C'est sûr que les films d'horreur, c'est tout le temps les fans de films d'horreur qui regardent, mais Terrifier, c'est destiné habituellement aux gens qui aiment le gore un peu. Puis je pense qu'il faut quand même mettre cet avertissement-là. Parce que c'est des films qui peuvent être le fun et divertissants, là. Mais il y a des scènes plus brutales que ce dont on peut genre peut-être s'attendre dans des films hollywoodiens mainstream, même dans des séries comme les ça, là. Les films, je ne disais pas les films avec le clown, mais les films... Ouais,
décadence.
C'est ça, là. Ouais, les films de décadence en français.
Mais c'est ça, c'est vraiment une belle franchise. C'est un peu toi qui me l'as fait découvrir. Je savais que ça existait dans la niche qui est le l'horreur, gore ou peu importe. Mais je les avais jamais vraiment visionnés. Pour nos auditeurs et auditrices, ils sont disponibles aussi gratuitement sur Tubi, donc une plateforme de streaming gratuite. J'ai vraiment été surpris. T'sais, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre, j'ai l'impression, à des grands films très bien réalisés techniquement parlant, là, si on veut. Il y a des bons flashs, il y en a qui laissent paraître son budget assez minime. Puis d'ailleurs, c'est quand même un peu ça. Pas nécessairement sa marque de commerce, mais un peu sa niche que d'essayer de faire de quoi de bon avec peu d'argent.
Ben exactement, là, parce que déjà, c'est crowdfunded, puis les réalisateurs, présentement du moins, n'expriment pas le désir d'aller sur le circuit plus professionnel, là, d'aller voir des studios. Il y a eu des entrevues avec des studios où il a montré le scénario, mais il y a comme eu des différences créatives là, par rapport notamment au niveau de violence. Le réalisateur veut pas compromettre là-dessus, mais je pense aussi il veut continuer à plaire à ses fans, peut-être garder les fans engagés. C'est comme une bonne technique de marketing quand tu es pour un petit groupe, une petite niche comme ça, quand tu veux la viser, mais désengager même dans le processus de financement, peut-être que là ça les incite à aller voir le film qu'eux-mêmes ont fondé, je sais pas. Mais aussi, je pense qu'il veut garder... Si on regarde même l'esthétique des films, là, pas juste la violence, là, mais il y a comme tout un aspect... je pense dans la manière dont c'est filmé, c'est intentionnellement un peu dirty. Là. L'image est pas très, très belle. Puis je pense que... c'est pas un found footage non plus, là.
Non.
Il y a quelque chose
ça me faisait beaucoup penser à une cinématique d'un jeu vidéo là. Tu sais, il y a quelques jeux vidéo là, je pense à Erica ou en tout cas qui impliquait comme du live action dans le gameplay là, si on veut. Ça faisait très ça. je trouvais là, tu sais, jeu vidéo style.
Je peux pas dire parce que c'est sûr, moi, les jeux vidéo j'ai pas beaucoup joué à des jeux vidéo d'horreur
Ouais. Mais globalement, puis tu sais, moi, ce que j'aime aussi, puis c'est ça, il y a comme une double marque de commerce, c'est-à-dire peut-être effectivement ce visuel dirty-là, ou sinon le gore, mais avec le gore vient aussi les effets spéciaux. Puis c'est le réalisateur aussi qui fait les effets spéciaux slash maquillage, slash abondance de sang, peu importe. Là. Puis ça, c'est réussi. Là.
C'est de là qu'il vient, puis aussi, ça, c'est une chose, c'est... Ça continue un peu dans la tradition. Il y a juste l'horreur, dans le fond, qui peut permettre à des techniciens d'effets spéciaux, je veux dire, de s'adonner à la réalisation. Parce qu'il y a tellement dans les films, il y a tellement une forte influence... Oh, le téléphone sonne derrière. Bon, désolé.
On pourra le couper au montage.
Ouais. Ok, je disais qu'il y avait tellement une forte... Attends, je vais t'attendre que le téléphone, ça. Bon, ok. Ok, je reprends. Donc, je disais qu'il y a tellement une forte influence, c'est tellement dicté par les besoins de faire apparaître du sang à l'image, de voir la chair se déchirer. Puis, on voit ça aussi dans d'autres séries, on a vu le Scavinish, c'est le technicien d'effets spéciaux de maquillage, en fait. dans les Nightmare on Elm Street, là. T'sais, il, il s'est créé une fanbase, lui aussi. Ou mettons, dans les... ben, plus récemment, je pense, dans les films... ben, les films Godzilla de 2000, là, qui étaient encore pas tellement axés sur le CGI. Il y avait Patrick... faudrait que je regarde comment ça s'appelle. Patrick... C'est le réalisé Patrick Godzilla. Okay. En tout cas, peu importe, là. C'est le réalisateur de ce film-là venait du maquillage et des effets spéciaux, mais plus pratiques. Fait que juste dans les films de genre qu'on peut se permettre ça, où ils peuvent devenir un peu des stars dans leur propre... en tout cas.
Ben oui, puis...
Ça semble défier la théorie de l'auteur, parce que dans l'auteur, les auteurs, on se dit, ah, il y a juste les réalisateurs qui peuvent... qui ont un contrôle artistique sur les films. Dans l'horreur, ben, des fois, on les voit, ces techniciens-là... c'est monter les échelons un peu.
Ouais, ben ça arrive aussi même dans le cinéma un peu mainstream, là. On dirait que les techniciens ont... un moment donné, ben, certains techniciens se tannent un peu de leur niche ou d'être au service de quelqu'un pour qui c'est pas nécessairement sa priorité. Tu sais, un exemple quand même, c'est pas dans le maquillage ou dans les effets spéciaux, mais c'est dans les cascades. Les John Wick sont réalisés par un ancien cascadeur. Même chose pour Bullet Train, là, puis The Fall Guy, justement, là, qui est sorti cette année, qui sont faits par des anciens cascadeurs, puis qui est le focus du film ou la marque de commerce du film, ben ça devient un peu ces cascades-là qui sont ben, pensées pour le film et non pas accessoires au film. Puis ça reste encore, on va dire, c'est moins du genre, là. John Wick, c'est peut-être un peu plus du genre que The Fall Guy, là, mais effectivement, il y a peut-être juste dans le cinéma de genre là, qu'on peut se permettre ça. Je sais pas si tu voudrais donner tes impressions du film ou peu importe, comment t'es tombé toi sur Terrifier à la base?
Je suis tombé là-dessus, j'étais pas mal plus jeune là. C'est quand je cherchais quelque chose à regarder sur Netflix, il devait être tard le soir. Puis là, c'était à l'époque où Netflix avait encore des bons films.
Ouais.
Non, mais des films, mettons, mais des films que qui attiraient mon attention par leur vignette, je veux dire. Mm-hmm. Et donc, j'ai parti ce film-là, puis tout de suite, moi, j'ai été comme... Mais déjà surpris par la violence, puis aussi par le personnage. Moi, je trouvais ça nouveau. Un personnage de film d'horreur sans... on lui donne pas une background story à ce personnage-là. On dirait qu'il y a juste plaisir à tuer.
Ouais.
Et il n'y a pas une victime dans le premier film, surtout, qui va tuer... sans la narguer d'abord, sans, mettons, lui faire un sourire, prendre un selfie avec elle, ou genre...
Ouais.
Donc, il y a comme cette partie-là, c'est un... c'est comparément à d'autres tueurs, si on prend les grands tueurs de slasher, les Jason, les Freddy, puis les Michael Myers, il y a souvent toute une histoire de revanche, comme dans les Freddy ou dans les Jason. Ou sinon, on va avoir une partie plus psychiatrique, là, où un docteur va nous expliquer pourquoi est-ce que Michael Myers pourrait avoir commis les actes qu'il a commis. Puis en plus, t'as le flashback où il est comme avec sa sœur et tout.
Dans on sent le besoin de justifier pourquoi ça existe dans ce monde-là.
C'est ça. Peut-être parce que c'est ça, les films sont destinés à des audiences plus grandes, ou peut-être aussi, c'est des produits de leur époque. Tu peux pas, à cette époque-là, tu pouvais peut-être pas montrer les crimes sans tenter d'expliquer. Et en tout cas, mais depuis ces tueurs-là, il n'y avait pas eu quelque chose. Il y avait sûrement. Les slashers avaient continué, après les années 90, je dirais. Un peu. Mais le genre de l'horreur a évolué. C'est peut-être un peu plus underground. Terrifier, ça l'est encore. Puis, quand j'ai vu ça, c'est comme tout d'un coup, c'est un peu... Je dirais peut-être une révélation, c'est un mot fort. Mais je voyais un tueur que je trouvais intéressant, nouveau, par ses gimmicks. Et puis on m'avait jamais parlé de lui. Il faisait pas partie du canon de l'horreur. Et mettons, je trouvais, en tout cas, je trouvais ça intéressant, un tueur... sans histoire, on dirait qu'il prend plaisir à faire ses crimes, un peu comme s'il faisait pratiquement pour le spectateur, je dirais.
Ouais.
C'est l'impression que ça me donnait, parce que les spectateurs de ce genre-là, Veux pas, c'est habituellement des fans de gore. Et ben, en voyant le tueur narguer les spectateurs, même des fois faire des sourires à l'écran, on dirait que ben, il dit pas un mot, mais on a un peu l'impression ben, qu'il brise le quatrième mur en exaucant les souhaits des spectateurs. C'est un peu ça que je l'ai vu. C'est un peu comme ça que je l'ai vu, puis je trouvais ça intéressant.
Ouais, ben, même chose pour moi. Tu sais, moi, ce que j'avais remarqué, ben, moi, je suis quelqu'un qui habituellement a besoin de backstory. Fait que, tu sais, au départ, j'étais comme, ben, pas nécessairement moins. Ben, j'étais un peu insatisfait. Tu sais, pourquoi est-ce qu'il parle pas? Tu sais, j'aimerais ça avoir une justification. Tu sais, tant qu'à faire, faites-en un mime s'il est pour ne pas parler. Mais bon, une fois que j'ai outrepassé ça, tu sais, ce que j'aimais beaucoup, c'est que, tu sais, la plupart des films d'horreur, d'habitude, ils vont avoir peur d'aller. De montrer le vilain, ou en tout cas, ils vont créer des attentes, puis finalement, on va voir le vilain, tu sais, full face, si on veut, tu sais, peut-être dans quelques scènes vers la fin du film. Là, on l'assume dès le départ, puis, tu sais, il est vraiment très bien réussi, là, honnêtement. Il est super bien fait. Je t'avoue que moi, c'est dans le deuxième. Ben, tu sais, le deuxième est meilleur que le premier, probablement qu'ils ont réussi à ramasser un petit peu plus d'argent. Il est pas sans défaut, là, le deuxième. Mais tu sais, dans le premier, il était plus traditionnel, j'ai l'impression. Tu sais, pendant comme 45 minutes, je me disais, bon, ben, OK, c'est un film d'horreur à peu près normal. Tu sais, il n'y avait pas de scène vraiment novatrice, jusqu'à temps qu'il y ait la scène. Peut-être qu'il fait le premier film, là, c'est-à-dire celle où il coupe quelqu'un en deux. Celle-là était quand même... OK, là, j'ai fait... Ah, OK, là, ça je l'ai rarement vu ailleurs. Bon, après ça, on est tombé dans quelque chose d'un peu plus formel. Mais dans le 2, je pense qu'on a comme poussé ça encore un peu plus. Puis là, il y a comme aussi toute une partie un peu plus... on va dire mystique, ou en tout cas des super pouvoirs là, que le clown possède qu'il n'y a pas vraiment dans le premier. Tu sais... honnêtement, c'est ça qui est drôle. J'ai de la misère à on va dire, là, leur donner une bonne note ou dire que c'est un bon film ou peu importe. Mais tout le long que j'y regardais, c'était comme du comfort food. Ben, j'étais comme... Tu sais, ça s'écoute à la limite d'une oreille. Tu peux, oui, porter attention, mais comme on dirait que... c'est ça s'écoute super bien. Puis je sais pas, ça m'a fait étonnamment me sentir bien malgré toute l'horreur qui était présentée. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que, tu sais, je sais pas, quand t'écoutes un grand classique du cinéma, tu te sens le devoir d'être investi à 100% dans le film, puis tout ça. Puis tu sais, j'en regarde rarement, mettons, du film un peu plus de divertissement. Puis ça, tu sais, ce lait, là, tu sais, t'attends la prochaine scène de mort, là. Tout le reste, c'est quasiment un filler pour la prochaine scène de mort. Puis c'est ça, tu sais, je trouvais... Ça m'a quand même fait du bien. Puis tu sais, j'ai eu de la misère à leur mettre une bonne note, comme je te disais, mais comme j'y repense quand même souvent, puis tu sais, j'ai quand même hâte au prochain aussi, qui va être thématique Noël, qui va sortir probablement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ah oui? OK, mais c'est ça, thématique Noël, somme toute. Mais tu sais, c'est ça, c'est ce que j'aimais. Bon, dans le deuxième, c'est ça, on améliore certains trucs. Le visuel a l'air un peu moins cheap, si on veut. Il y a des scènes un peu plus... gore que dans le premier, mais à l'inverse, tu sais, 2h15, c'est quand même long pour la proposition.
Une critique que je vois surtout contre le deuxième, c'est ben, dans la première heure, je pense qu'il y a un seul meurtre, peut-être. Ouais. Là. Puis c'est pas un meurtre d'un personnage important, d'ailleurs. Là. On n'en spoil tout, mais c'est peut-être que le. Je pense que la durée du troisième va être raccourcie, d'ailleurs, mais peut-être qu'il y a. C'est à force de... Parce que le fait de ne pas avoir d'histoire dans le premier film, ça a été une grosse critique, là.
Ouais.
Puis essayer de l'aborder, mais peut-être que c'est pas nécessairement... C'est fou, faut critiquer les films qu'on aime aussi, mais c'est pas nécessairement sa force non plus à Damien Leon de faire des drames familiaux.
C'est ça. Puis tu sais, c'est pas ça qu'on attend non plus de ce film-là, là, tu sais, on sait... C'est ça, on s'attend pas à ce que ce soit Rosemary's Baby ou The Shining, que tout soit bien réussi. Au final, on s'attend à être diverti, puis je pense que ça remplit son mandat amplement. Puis pour vrai, j'ai hâte. T'sais, je sais pas si je vais me laisser tenter par les courts-métrages parce que, comme tu dis, ils sont canons, mais ils sont pas aussi soignés peut-être que les longs-métrages.
C'est un peu aussi des démos. C'est rendu ouais, là, c'est vu qu'ils voulaient obtenir... le financement pour ces films, Il a dû un peu de... Il a dû un peu faire des démo reels, là, genre montrer de ce dont il était, de quoi il était capable. Au final, c'est, ben, ça apporte pas grand-chose, je dirais. Là. Moi, je pense que l'essence de la série se retrouve dans les deux premiers longs-métrages. Là.
Disponible sur Tubi, justement, on le précise. Fait que on reparlera du troisième quand il sortira, ça c'est certain. Écoute, Maxence, merci beaucoup. Grâce à toi, la série Terrifier pour nos auditeurs, on n'aura plus de secrets ou moins de secrets, mais allez voir les films quand même. Il y a une belle part de mystères et de non-dits qui sont quand même assez intéressants. Merci beaucoup, Maxence.
Ben, je suis content de t'avoir parlé.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, on rejoint Laurent Bergeron. Salut Laurent, ça va bien?
Oui, ça va bien. Et toi?
Oui, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, écoute, tu voulais nous parler d'un film qui t'affectionne particulièrement, qui est le film Sans Soleil. C'est quoi ça, Sans Soleil?
C'est un film vraiment impossible à résumer, mais avant en fait de parler du film, on pourrait parler peut-être du cinéaste Chris Marker. Donc déjà, Chris Marker, c'est un pseudonyme. Il s'appelle en réalité Christian Bouche-Villeneuve. C'est quelqu'un vraiment d'assez mystérieux, comme Régent du Charme au Québec. Il n'a jamais vraiment fait d'apparition publique et on peut trouver peut-être quelques photos de lui qui circulent sur le web. C'est un féru de technologie. Il travaillait chez lui dans son Capharnaüm, puis il bricolait toutes sortes de gadgets, des jeux vidéo, etc. Puis les gens qui l'ont connu disaient que c'était quelqu'un de très curieux. Il parlait de politique, de sociologie, d'histoire, de religion, de voyage, même de chats aussi. Puis ça paraît, je dirais, dans Sans Soleil. Là. C'est quelqu'un comme qui veut avoir atteint une sorte de connaissance encyclopédique. Donc je me suis mis aussi, sinon, essayer de résumer Sans Soleil, qui est une tâche pas évidente.
Non.
Mais en gros, on suit les lettres de Sandor Krasna, qui est un caméraman freelance, puis qui sont lues justement et commentées par Florence Delay. Donc ce caméraman-là, il parcourt le monde, puis il demeure cependant attiré par les deux pôles de l'extrême, comme il les appelle, le Japon, puis l'Afrique, plus particulièrement la Guinée-Bissau, puis les îles du Cap-Vert. Et il s'interroge sur cette représentation du monde dont il est en permanence l'artisan et le rôle de cette mémoire qu'il contribue à forger. Et l'un de ses amis japonais, Hayao Yamaneko, récupère les images de la représentation, les travaille, les tortures aussi par l'électronique et la vidéo. Fait majeur, fait mineur, images recueillies ou empruntées, images fabriquées ou disloquées au synthétiseur, sans soleil, c'est une mosaïque de mémoire juxtaposée qui s'ordonne en une mémoire active.
C'est bien dit.
Ouais.
C'est bien dit pour résumer justement ce film-là qui est dur à caser, outre que dans l'espèce de le docu-fiction expérimentale d'une certaine façon. Là, il est quand même pas si. Il n'est pas si expérimental que ça. Je sais pas si je m'exprime bien, mais dans le sens. La forme est quand même assez classique, mais il y a des formes d'expérimentation aussi. Moi, ce qui m'avait frappé peut-être au début, c'est que, je sais pas, les années 80, c'était beaucoup ce lieu peut-être d'exploration-là. Tu sais, c'était le début aussi des caméscopes, ou en tout cas, tu sais, des formes plus rudimentaires, on veut dire, de captation d'images, puis de documentaires contemplatifs aussi. Là, tu sais, c'est je pense que c'est le premier Koyaanisqatsi qui était sorti dans ces eaux-là. En tout cas, un des films Katsi qui est sorti à peu près en même temps, qui se veut justement une espèce de regard poétique, contemplatif sur une thématique donnée. Dans ce cas-ci, Sans Soleil, c'est notamment la mémoire. Là. Toi, c'est des films qui te plaisent habituellement?
Oui, absolument. Mais en fait, je dirais que le documentaire me plaît. Tantôt, ça, tu évoquais documentaire expérimental, mais je pense que le documentaire, c'est là où il y a le plus justement d'expérimentation formelle. Puis Chris Marker, comme je disais, qui était un féru de technologie, bien évidemment, je pense qu'il a vu vraiment l'apparition du numérique, vraiment, il s'est lancé dans ce genre d'aventure-là. Mais oui, évidemment, comme les documentaires, je dirais, comme qui prennent... qui essaie justement comme d'autres formes, parfois plus contemplatives ou des formes non linéaires comme dans Sans Soleil. Moi, c'est quelque chose qui peut me plaire assez. Tantôt, tu parlais justement de la mémoire, mais je trouve que aussi c'est un film aux multiples tiroirs. En fait, moi, je trouve que qu'est-ce qui est risqué à parler de ce film-là en 15 minutes, c'est que si je parle d'une seule scène, On va déballer en fait là, un paquet d'affaires, comme par exemple, si je prends la scène du regard dans le marché du Cap-Vert, je sais pas si tu te rappelles, où il filme, c'est ça, une femme, puis toutes les images dans cette scène-là comme gravitent autour de ce regard-là qui dure 1/25 de seconde, comme il dit. Puis là, quand il apparaît, genre ça nous paraît comme durer une éternité, comme genre ça nous... Je sais pas, ça nous secoue. Puis ensuite de ça, ben t'as la scène du carnaval au Japon, avec où il n'y a pas vraiment d'image, on va dire, entre guillemets, importante.
Mm-hmm.
Excepté peut-être l'image là, de la japonaise qui est l'affiche du film. Puis qu'on revoit justement ben, à la fin, lorsque Hayao Yamaneko, justement, comme distorsionne les images, on revoit cette image-là à la fin. Donc c'est comme s'il transformait un plan de caméra en image absolue, sans hors-champ. Comme les trois jeunes filles, justement, au début. Donc, le film, il est tellement riche, tellement de choses. Juste la dichotomie entre plan et image, moi, c'est quelque chose qui me passionne.
Oui, vraiment. Puis c'est ça, tu fais bien de le mentionner, très riche, parce que je pense qu'à chaque visionnement, ou peut-être même à chaque période de notre vie, on va en dégager quelque chose de différent, où on va porter plus attention à un élément en particulier. Moi, tu sais, c'est rare que c'est mon genre de film. Je fais le gros disclaimer parce que... mais c'est rare que c'est mon genre de film, mais là, je l'ai quand même bien apprécié. Peut-être parce que j'ai écouté la version francophone, parce que là, il existe une version française et anglaise qui disent pas exactement la même chose. Là, c'est vraiment deux versions là, à part qui ont été faites, mais ils disent à peu près les mêmes choses, mais pas nécessairement. Puis... Tu sais, moi, souvent, j'ai de la misère avec des films un peu plus poétiques parce que je suis quelqu'un de très ancré dans le réel. Je suis quelqu'un qui est capable de réfléchir à des choses, mais qui se laisse rarement, on va dire, embarquer dans une certaine poésie visuelle ou narrative, si on veut. Là, vu qu'il y avait peut-être moins cette barrière de la langue-là, peut-être que ça m'a fait plus embarquer dedans, mais tu sais... Aux 5 à 10 minutes ou à peu près, là, tu sais, je trouvais quelque chose, une phrase, une réflexion qui me faisait réfléchir ou qui me faisait me dire « Ah, ben stable cette tournure de phrase-là » ou « Ah, c'est, la juxtaposition entre le texte et l'image-là est vraiment bien faite. » Puis ça m'a surpris d'en trouver autant. Tu sais, je m'attendais à peut-être trouver 2-3 passages quand même intéressants. Puis finalement, ben tu sais... de façon soutenue, même les passages qui visuellement étaient peut-être un peu moins intéressants pour moi, c'est-à-dire notamment l'expérimentation là, qu'il fait quand il met ses manifestations-là dans une espèce de... Là, j'ai pas le terme, là, mais l'espèce d'image floue en bleu. J'ai pas le terme très scientifique. Là. Ouais, c'est ça, dans le logiciel. Tu sais, ça, habituellement, c'est quelque chose qui vient pas vraiment me chercher, mais tu sais, même là, il y avait un angle quand même assez intéressant, puis ça m'a surpris, c'est ça, de la constance peut-être avec laquelle j'étais investi dans cette histoire-là. Mais en même temps, tu te fais lancer plein de choses à gauche puis à droite, plein de réflexions un peu décousues qui, ensemble, forment un tout, mais qui sont peut-être durs à assimiler ou en tout cas qu'on peut facilement en échapper avec un seul visionnement. Fait, j'ai vraiment très hâte de le revoir ou d'attendre 5 ans peut-être avant de le revoir puis voir est-ce que mon appréciation va changer du film ou pas. C'est ce qui fait, je pense, un peu sa richesse. C'est pour ça aussi qu'il est très bien reconnu dans le milieu puis qu'il a ses adeptes un peu plus férus. Toi, est-ce que cette poésie-là, en général, ça te parle beaucoup au cinéma?
Ben absolument. Moi, j'aime les tensions, en fait. Ce qui me surprend vraiment à chaque fois dans Sans Soleil, mais tu l'as évoqué, tu disais justement qu'il y avait une phrase, par exemple, qui te surprenait, puis là, comment, qui te raccrochait au film. Mais moi, c'est la quatrième fois que je le vois, puis il y en a toujours une, en fait, là, une nouvelle. Parce qu'en fait, le texte, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est vraiment autonome. C'est-à-dire que ça aurait pu être un livre, puis le texte, par ailleurs, il est magnifique. Puis la musique aussi, elle est vraiment autonome par rapport aux images. C'est rare que j'aime la musique dans les films, mais là, je trouve que c'est vraiment bien. Elle a vraiment comme une existence qui lui est propre. Puis oui, ça, j'aime dans la poésie, puis dans le cinéma, quand les choses sont mises en tension, quand les choses, parfois, comme s'imbriquent, mais parfois, justement, comme... on va dire, entre guillemets, pas rapport. Puis c'est à nous, le spectateur, d'essayer de démêler ça, comme qu'on voit une espèce de missile nucléaire, là, genre sortir de l'eau, puis on nous parle de la dynastie une dynastie moyenâgeuse, genre au Japon. Ben, tu sais, ça nous fait penser évidemment à la bombe atomique ou même au début, quand il y a des gens qui dorment dans le ferry, ils parlent de fragments de guerre. Puis ensuite, on voit d'autres personnes dormir dans un train puis ils font des cauchemars. Donc, c'est comme si la mémoire, l'histoire les suivait en permanence, les hantait, autrement dit.
Mm-hmm.
La poésie, c'est un peu l'art, justement, de rendre visible l'invisible.
Ouais.
Justement, en prenant l'histoire comme matière, c'est de faire rentrer l'invisible dans le visible de l'image, des plans, en fait. Genre.
Mm-hmm. Puis, je ne sais pas à quel point tu es familier avec le cinéma, justement, de Chris Marker. Est-ce que Sans soleil est un peu un exemple parmi d'autres des films expérimentaux qu'il a fait? T'sais, on le connaît aussi pour La jetée, évidemment, lui, qui a inspiré beaucoup d'autres œuvres par la suite. Mais est-ce que justement, c'est un ovni dans sa cinématographie ou tu dirais que c'est quand même assez constant avec les autres trucs qu'il a fait?
Il a toujours vraiment fait de l'expérimentation, mais moi, je suis pas vraiment... ça qui est étrange, je suis pas vraiment un marquérien.
Non.
C'est-à-dire que je suis pas un énorme fan de ses autres propositions cinématographiques. Ça a toujours été quelqu'un très engagé à gauche. J'ai fait des films politiques, interviewait genre des travailleurs, des prolétaires notamment. Il fait de la science-fiction aussi, comme genre pour La jeter. Mais je dirais que c'est vraiment Sans soleil qui est l'œuvre qui m'a le plus fasciné, en fait. Je trouve que c'est son œuvre la plus aboutie, probablement, là, à mon avis.
Ouais. Puis, c'est ça, il y a tellement... Je sais pas si tu veux t'attarder sur une scène en particulier ou si... je sais pas si t'as un sujet ou une scène en particulier qui t'a marqué, outre peut-être celle que t'as mentionnée sur la femme qui regarde l'objectif très rapidement. Est-ce que t'as d'autres scènes marquantes du film?
Ben oui, notamment... en fait, c'est ça comme qui est particulier, c'est que genre chaque scène a sa rime par la suite. Donc, on voit les scènes à peu près deux fois dans le film. Comme notamment la scène du marché au Cap-Vert où on filme des femmes. Comme il n'y avait pas juste le regard, mais on voit des femmes se lancer des pierres, tout ça. Mais qui fait aussi allusion justement comme aux femmes qui portent la mémoire, qui sont un peu comme les conteuses, les sorcières justement sur l'île d'Okinawa. Comme si sur les îles, c'était les femmes qui portaient l'histoire en fait sur leurs épaules. Mais moi, je dirais que la scène qui m'a le plus marqué, c'est cette espèce de ballet de girafe. Je sais pas si tu t'en rappelles, cette scène-là.
Ouais,
assez dure. C'est les gens qui aiment les animaux. Franchement, trigger warning là, pour eux. Là.
Ouais.
Mais on a une vache, une girafe, pardon, comme qui meurt dans la lenteur, tout ça. Une sorte. Mais en fait, c'est que Sans soleil, c'est un genre de livre d'images sacrées, si on veut. On parle parfois de mort dans le film. On a au début justement un couple qui se recueille devant leur chat qui s'appelle Tora, comme l'attaque de Pearl Harbor, justement.
Ouais.
On a aussi des images de temples, des rituels religieux, des carnavals. Un pèlerinage aussi sur le lieu de tournage de Vertigo.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est ça, c'est des images tout le temps sacrées. Puis, à un moment donné, on parle justement de cloison entre la vie et la mort, puis que nous, les Occidentaux, justement, on faisait vraiment la distinction entre vie et mort, alors que pour Chris Marker, la manière dont il observe les Japonais, c'est comme s'il y avait une sorte de, pas de fascination, mais la cloison qui sépare la vie et la mort, c'était une sorte de chemin, en fait, sur lequel on devait juste marcher. Donc, regardez Sans soleil, c'est un peu faire l'expérience du temps, faire l'expérience de notre propre existence aussi, puis...
Mm-hmm.
De la mort, en fait, en réalité. C'est difficile de parler d'une seule scène, puisque les scènes, on passe, en fait, c'est un va-et-vient, en fait, là, entre l'Afrique et le Japon, sans cesse.
Mm-hmm.
Ouais, c'est plus des thématiques.
Ouais. C'est un film qui se vit. On n'a pas le choix de... Puis tu sais, il faut quand même porter une attention... Ben, il faut quand même être attentif, là. C'est pas le genre de film où tu peux... je sais pas, zone out parce que tu fais autre chose en même temps. Là, je pense qu'il mérite vraiment qu'on y mette de l'attention, puis il va récompenser l'effort qu'on met dans nos visionnements, puis même les visionnements subséquents. Là. Comme tu dis, tu es déjà rendu à ton quatrième, puis il y a toujours quelque chose de nouveau, donc ça montre ça, à quel point c'est riche comme matériel.
Oui, il y a même une fois que je le regardais sans le son, juste pour regarder les images, comment il monte, comment il fait cette transition, en fait, genre d'une image, d'un plan à un autre. Puis genre, juste ça, c'est pour moi, c'est une leçon de cinéma, enfin, une leçon de montage là, pour les monteurs qui nous écoutent.
On vous recommande évidemment donc de l'expérimenter par vous-même, Sans Soleil. Il est disponible sur la plateforme de streaming de Criterion, donc le Criterion Channel. Allez voir ça. Il fait aussi partie du répertoire là, de Criterion si jamais vous êtes amateur ou amatrice de format physique. Il est en programme double avec La Jetée, justement. Donc, Sans Soleil de Chris Marker, n'aura plus de secret pour vous. Ben, va avoir quand même sa part de secret, on s'entend. Mais... Et on vous fait une petite mise en bouche justement sur ce film-là. Laurent, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler d'un de tes films phares.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments. Coller les uns aux autres sans arrêt.
Et voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Ciné Histoire. La semaine prochaine, ben, on a un très gros programme. Il y a Maxence Gagné qui revient nous parler en fait qui revient un peu sur la mort d'Alain Delon et qui revisite certains de ses grands films. Vous ne voudrez pas manquer ça. Et on va également parler des films Amazonie à la rencontre des gardiens et des gardiennes de la forêt de Santiago Bertolino, ainsi que de Les Rois de la piste de Thierry Cliffa, qui m'a fait d'être Fanny Ardant et Mathieu Kassovitz. Il y a d'autres nouveautés, évidemment, la semaine prochaine, notamment Beetlejuice, mais je ne sais pas si je vais être capable de le regarder pour vendredi prochain. Bref, à suivre. D'ici là, ben, prenez soin de vous, allez au cinéma, et on se retrouve vendredi prochain, même en même poste, pour un autre épisode de Ciné Histoire.